L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à foi 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Bonjour à vous, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles Galbardi, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver le mardi, c'est le diocèse de Tarbes-et-Lourdes qui est à l'honneur.
Eh oui, alors je suis là, toute pleine de joie à l'idée de vous raconter ce qui se passe dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Non seulement vous allez nous raconter ce qui va se passer, mais vous allez également nous raconter votre week-end.
Ah, j'étais un anniversaire fabuleux.
On en parlera dans un instant, on n'en dit pas plus à nos éditeurs et auditrices, on va détailler l'agenda du diocèse et puis on ira du côté d'Argelès-Gazost, à côté d'Argelès-Gazost, dans ce petit village qui s'appelle Gesse.
Exactement, le maire Jean-Baptiste Ramon a répondu à mes questions, il va nous parler dans quelques instants de ce que c'est qu'être maire d'un petit village, des chemins aussi, des chemins de randonnée qu'il ouvre et qu'il se bat pour ouvrir et pour faire découvrir aux habitants et aux vacanciers, aux touristes, aux curistes, eh bien, le beau patrimoine de cette vallée des Gaves.
Et puis nous parlerons d'un animal qui est présent en Bigorre depuis l'Antiquité, c'est le porc noir de Bigorre.
Je croyais que c'était la marmotte.
Non, peut-être possible aussi. Mais le porc noir de Bigorre qui a presque failli disparaître il y a quelques années. On en parle dans un instant avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Mais pour le moment, place à l'actualité avec les titres à la une, les titres qui seront développés à 12h30 avec Coralie Guénon de l'École de Journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous et à toutes. À la une aujourd'hui, un lundi de Pentecôte placé sous le signe de la solidarité. Près de 3,5 milliards d'euros attendus pour financer l'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap. À Lautrec, dans le Tarn, une école est toujours hors service après les fortes intempéries. Les élèves font classe au gymnase et même à la mairie. Pas de manifestation des taxis à Toulouse. La préfecture a dit non pour risque d'affrontement avec les VTC. Les chauffeurs prennent finalement la route en direction de Paris. Un exploit ce week-end, un Toulousain parcourt 246 km à pied sans s'arrêter pour soutenir le don d'organes. Toujours à Toulouse, le mythe a vibré ce week-end pour une messe géante. 15 000 fidèles rassemblés pour la Pentecôte. Un record pour le diocèse. Un beau projet scientifique à Albi. Des étudiants travaillent sur une bouée océanographique avec l'explorateur Jean-Louis Etienne avant un départ prévu pour l'Antarctique. Enfin, en rugby, Montauban fait sensation et monte en top 14. Et le Stade toulousain se prépare pour sa demi-finale, malgré 3 blessés de taille après la défaite à Perpignan. En vous souhaitant à tous une agréable journée.
Merci à tout à l'heure, 12h30, pour développer ces titres dans le journal. Tous les jours, on sillonne notre région à la découverte et de l'actualité des diocèses. Et aujourd'hui, direction le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Rebonjour, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous.
On a reçu beaucoup d'appels pour savoir ce que vous avez fait ce week-end, puisqu'on en a parlé dans le sommaire il y a quelques instants. Expliquez-nous.
J'étais à un anniversaire fabuleux. C'était Pentecôte, c'était la naissance de l'Église. Et on a fêté ça vraiment dignement dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, puisque samedi soir, à la cathédrale de Tarbes, il y avait 78 confirmés, 60 adultes qui ont demandé à recevoir l'Esprit Saint, le sacrement de la confirmation. C'était donc samedi soir au cours des vigiles de Pentecôte. La cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes était pleine à craquer. Énormément de joie, c'est normal, c'est l'effet de l'Esprit-Saint. Et puis, dimanche, à Bagnères-de-Bigorre, il y avait huit jeunes qui ont eux aussi reçu le sacrement de confirmation. Et puis, allez, je vous dis tout. Il y avait 15 000 personnes rassemblées au mythe à Toulouse, un rassemblement exceptionnel avec 800 confirmants. Et puis, il y avait Glorious, le groupe de louanges Glorious à Toulouse aussi. Et j'ai eu la chance d'y participer. Alors, vous voyez, j'ai vraiment bien fêté l'anniversaire de l'Église ce week-end.
Voilà, vous avez passé donc un excellent week-end.
Oui, quand l'Esprit Saint est là, c'est toujours bien.
On parlait il y a un instant de Bannière de Bigorre, on va y rester avec dans l'agenda ce soir du caté.
Un caté pour adultes, approfondissement de la foi pour adultes, ça s'appelle Voir l'invisible. C'est une rencontre qui a démarré depuis le mois de février, une fois par mois. La dernière séance de cette année pastorale, c'est ce 10 juin au 13 rue Pasteur à Bannière de Bigorre, de 18h30 à 19h30. C'est vraiment ouvert à tous les adultes qui veulent partager sur leur foi ou poser quelques questions. Voir l'invisible, approfondissement de la foi pour adultes à Bannière de Bigorre.
On poursuit toujours avec à Bannière de Bigorre ce concert ce vendredi 13 juin.
Concert de chants spirituels et traditionnels proposé par la chorale de secteur du Haut-Adour ce 13 juin à 20h30 en l'église Saint-Vincent de Bannière de Bigorre. Entrée gratuite avec une libre participation possible.
C'est le printemps, c'est la période des vide-greniers et vous avez relevé une date prochainement.
Exactement, on reste à Bannière de Bigorre et on va du côté du Carmel. Vous savez qu'à Bannière de Bigorre, il y a les carmélites apostoliques qui nous proposent de participer à leur vide-grenier. Ça se passera le samedi 21 juin de 9h30 à 17h. En fait, ça commencera à 8h30 avec la messe et puis le vide-grenier en tant que tel commencera dès 9h30. Il y a même un tirage de la tombola dans l'après-midi, un concert de louanges en fin de journée à 20h30. Mais en tous les cas, pendant le vide-grenier, vous pourrez trouver des livres, du mobilier, de la vaisselle, des produits faits maison par nos chères sœurs, des objets religieux, des cadres. Enfin, les sœurs proposent ce vide-grenier pour les aider dans la rénovation d'une aile de leur monastère, rue Gambetta à Bannière de Bigorre, 5 terres rue Gambetta à Bannière de Bigorre. C'est ouvert à tous, évidemment.
On poursuit avec à Argelès-Gazost, cette école d'adoration.
Oui, c'est la dernière séance de l'année pastorale, école d'adoration, avec pour objectif apprendre à adorer Jésus Eucharistie pour devenir ce que nous sommes. C'est proposé à Saint-Savin, exactement, donc c'est dans le doyenné d'Argelès-Gazost, avec le père Jean-Florent Nutens. C'est donc un jeudi par mois, donc ce jeudi 12 juin, de 18h à 19h30, en la maison paroissiale de Saint-Savin. C'est une initiative locale qui peut vraiment être ouverte et partagée au-delà des frontières de l'ensemble paroissial d'Argelès et Saint-Savin. Donc n'hésitez pas à venir et à en parler autour de vous pour participer à cette école d'adoration.
Direction Piétat. Piétat, ça se trouve à quelques minutes à peine de Tarbes pour ce pèlerinage des hommes.
Oui, une initiative intéressante, proposée donc par un groupe d'hommes de la Bigorre. Ils proposent un pèlerinage des hommes de la Bigorre du 4 au 6 juillet prochain. Et ce qui est intéressant, c'est que cette proposition, elle s'inscrit pleinement dans cette démarche jubilaire que nous avons dans le diocèse, en se donnant rendez-vous d'un sanctuaire marial à un autre tout au long de l'année. Eh bien, ce groupe propose aux hommes de Bigorre de se retrouver le 4 juillet au sanctuaire Notre-Dame de Piétat, c'est tout près de Tarbes, pour cheminer jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Arriver au sanctuaire Notre-Dame de Garaison le 6 juillet, ça tombe bien puisque le dimanche 6 juillet, il y a précisément un pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Garaison.
Et puis puisqu'on parle de ce pèlerinage, autant détailler le programme, puisque pour les 5 et 6 juillet, le programme est fixé.
Alors c'est en fait le dimanche 6 juillet, effectivement. Vous me regardez avec des grands yeux, Gilles. Oui. Effectivement, au début, le pèlerinage était prévu les 5 et 6 juillet. Mais attention, il y a un changement de date. Le pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Garaison a lieu le dimanche 6 juillet. Il n'y a pas de nuitée. Nous avons rendez-vous ce jour-là à partir de 9h45 au sanctuaire qui se trouve à Montléon-Magnoac. C'est pas très loin de Lannemezan et puis c'est tout près du Gers et de la Haute-Garonne. Voilà, c'est un très beau pays que le Magnoac. À 10h30, il y aura la messe présidée par notre évêque, Mgr Jean-Marc Mica. Et puis, à midi, l'Angélus avec l'envol des colombes. Vous verrez quand vous viendrez et que vous découvrirez l'histoire de ce lieu, que la colombe est importante. Il y aura ensuite un déjeuner dans le parc du sanctuaire. Il faut s'inscrire d'ailleurs pour le déjeuner avant le 1er juillet. Et puis, à partir de 14h30, plusieurs propositions vraiment pour tous. Alors, un jeu d'immersion, vraiment pour tous les âges, intitulé « Les secrets de la bergère », ou bien une visite guidée du sanctuaire par le père recteur du lieu, le père Pascal Garçon. À 16h, il y aura évidemment un goûter et puis à 16h30, la procession mariale avant de terminer la journée aux alentours de 17h15. Je le disais, il faut s'inscrire pour le repas avant le 1er juillet. Pour s'inscrire, il faut contacter le sanctuaire de Garaison, le père Pascal Garçon, et vous avez sur le site de Garaison et du diocèse de Tarbes et Lourdes toutes les indications. Vous pouvez aller sur le site www.garaison.com/le-sanctuaire ou bien vous tapez sur un moteur de recherche sanctuaire de Garaison, vous allez trouver les indications, les modalités d'inscription pour ce repas, et puis dans quelques jours vous verrez un petit peu partout, dans les paroisses, à la maison diocésaine, des petits dépliants avec toutes les indications, le programme et puis aussi les modalités d'inscription pour le repas. Vous pouvez le faire par voie numérique, par mail, et vous pouvez le faire aussi par voie postale. C'est dire si ce pèlerinage est pour tous.
Voilà, 6 juillet, donc direction Notre-Dame de Garaison, autre pèlerinage diocésain. Là, ça sera le 27 juillet, direction Notre-Dame de Poillaon.
Effectivement, puisque vous l'avez bien compris, ces pèlerinages, ils sont liés. Hein. C'est vraiment une démarche qui s'échelonne toute l'année, tout au long de cette année jubilaire, tout au long de 2025. Nous avons commencé le 4 mai à Pietat. Nous allons à Rome du 23 au 27 juin. Bon, là, on sort un petit peu de la Bigorre et des quatre vallées, mais quand même, les diocésains de la Bigorre vont à Rome. Le 6 juillet, nous serons à Garaison. Le 27 juillet, au sanctuaire Notre-Dame de Poillaon. Et puis, ça continuera avec Eas en septembre et Lourdes au mois d'octobre. À Poillaon, au mois de juillet, nous aurons rendez-vous dès le matin pour deux propositions de marche, soit depuis Arcisan des Sus à 8h, soit depuis Aucun à 8h30, et nous cheminerons tous vers le sanctuaire pour un accueil à partir de 10h15. Un temps de présentation du sanctuaire Poillaon, le sanctuaire Notre-Dame de Poillaon, se trouve à Arins-Marsous, c'est vraiment dans le Val d'Azun, au fond du Val d'Azun, au-delà donc d'Argelès-Gazost. Et puis, il y aura une table ronde, voilà, pour parler notamment de la piété populaire. Et effectivement, cette journée étant aussi l'occasion de prier, mais aussi de vivre quelque chose de convivial, il y aura un pique-nique tous ensemble. Et l'après-midi, la prière du chapelet, la bénédiction, la présentation d'abord et la bénédiction de la médaille du sanctuaire de Poillaon. Ça, c'est vraiment un événement. Et puis, la journée se terminera à 15h par la messe chantée par le chœur grégorien. Ça, c'est pour le pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Poillaon. Mais d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Enfin, notez bien les dates en tous les cas. Et très bientôt, dans les paroisses, vous pourrez voir les programmes qui seront distribués.
Autre date à noter, c'est le vendredi 20 juin, ça va se passer à la maison Saint-Paul de Tarbes. Une belle soirée en perspective avec un barbecue pour tous.
Oui, c'est une proposition faite par l'ensemble paroissial de la cathédrale de Tarbes, un barbecue pour tous. Vendredi 20 juin, vous l'avez dit, il y aura d'abord à 18h30 la messe en la cathédrale de Tarbes et puis ensuite à partir de 19h45 un repas partagé à la maison Saint-Paul. Alors chacun apporte de quoi partager, viande pour le barbecue, des plats salés, sucrés, des boissons. Évidemment, l'assiette, le verre et les couverts. Voilà, c'est une belle initiative que l'ensemble paroissial de la cathédrale propose chaque année et qui permet de finir l'année pastorale en beauté. Ça ne veut pas dire qu'on se quitte pendant deux mois, pendant l'été. Il y a plein d'autres propositions, mais on change un petit peu de registre. Il y a les camps pour les jeunes, les camps pour les enfants, etc. Donc là, ce barbecue pour tous, il permet vraiment de terminer l'année pastorale avant de rentrer dans les propositions estivales dont je vous parlerai bien sûr tout au long de l'été.
Voilà, sachant que pour les propositions estivales, je crois savoir qu'il y a un bulletin diocésain qui se prépare, un spécial été.
Il se prépare. Alors, il y aura d'abord le bulletin de juin, le bulletin classique qui va paraître dans quelques jours, et puis un peu plus tard le bulletin effectivement spécialité qui est construit grâce à la PRTL, la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, et qui présente un tas d'initiatives qui sont faites partout. Et à ce sujet-là, puisque vous me donnez la parole, Gilles, je lance un appel à toutes les personnes qui organisent des concerts, des expositions, etc. On en parlait la semaine dernière avec les invités de vendredi, notamment le père Jean-Florent Nutens, mais effectivement c'est important d'en parler autour de vous et puis de faire remonter jusqu'au service communication du diocèse communication@catholique65.fr pour que le bulletin diocésain, Radio Présence, l'application au clocher puissent se faire écho de ce que vous organisez chez vous.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. À noter également que les confirmations se poursuivent durant le mois de juin.
Tout à fait. Alors, je n'ai pas en tête toutes les dates, mais effectivement, ouais. Monseigneur Mika, qui est actuellement au Liban, va revenir dans quelques jours pour aller dans les paroisses confirmer les jeunes ici ou là. Il est déjà allé à Garaison, il est déjà allé à Bagnères-de-Bigorre, ouais. Il est déjà allé du côté de Séméac, je crois, et ça va se poursuivre.
Il ira du côté de Maubourguet, du côté également de Tarbes, de l'église Saint-Jean, à la fin du mois.
Vous êtes bien informé, je pense que vous lisez le bulletin du César.
Je l'ai sous les yeux, vous voyez.
Ah, bravo.
C'est une mine d'informations.
Bravo, voilà, Gilles.
On le garde. Bien, voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, catholique65.fr, l'application au clocher, puis on rappelle également la chaîne YouTube nous permet de suivre l'actualité du diocèse.
Tout à fait, alors les visites pastorales sont terminées, vous le savez bien, vous pouvez visionner le dernier épisode qui relatait la visite pastorale de Monseigneur Mika dans le Pays d'Oil, une belle visite de 4 jours, mais vous pouvez aussi regarder tous les autres épisodes parce que effectivement ces visites pastorales, elles racontent une visite, un moment, mais elles racontent aussi un territoire, une organisation de l'église sur un territoire. Elle raconte la vie des gens qui vivent là-bas. Et ça, eh bien, on peut le regarder n'importe quand. Puis en plus, ça peut vous donner des idées de sortie pour l'été.
La transition est toute faite, puisque la suite de cette émission, justement, c'est avec le maire de Gès, à côté d'Argelès.
Jean-Baptiste Ramon, qui va nous parler de beaucoup de choses, et notamment des chemins, les chemins de randonnée. Eh bien oui, ça fait aussi partie de la mission des élus, des maires dans les petits villages, de se battre pour rouvrir ou entretenir les chemins de randonnée, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le tourisme et c'est bon aussi pour les paysages, pour l'entretien des paysages. Il nous raconte tout ça dans quelques instants, puis il nous racontera aussi ce que c'est qu'être engagé en tant qu'élu. Voilà.
Un grand merci Androse Jankovic, à tout de suite.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence. Présence à l'Albinque. 92.5.
Bonjour Jean-Baptiste Ramon.
Et bonjour.
Vous êtes le maire du village de Gès, c'est juste au-dessus d'Argelès-Gazost. Vous allez aujourd'hui nous présenter votre village. On va parler avec vous de la communauté de communes, c'est celle de Pyrénées-Vallée des Gaves. On va parler d'un tas d'autres choses parce qu'il y a aussi une aventure que vous vivez dans votre village avec les chemins, tout cet enjeu que sont les chemins de randonnée. Vous nous parlerez de ça et puis nous parlerons aussi de ce que c'est qu'être élu aujourd'hui, en 2025. Quelle est la vie d'un élu ? On reçoit souvent des élus au micro de Radio Présence. On entend souvent les défis qui sont à relever. Vous nous direz comment vous vivez cette mission. Voilà, en tous les cas, cet engagement que j'ose appeler mission. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par présenter ce village de Gès, au-dessus d'Argelès-Gazost. Présentez-nous un petit peu. Faites-nous la carte postale. Faites-nous rêver avec votre village.
Bon, et bien écoutez, déjà, merci pour votre invitation. C'est un exercice que je n'ai pas l'habitude. Donc je vais essayer d'être à la hauteur.
Ça va très bien se passer. En général, les maires viennent peut-être un peu tendus, mais repartent et puis reviennent avec grand plaisir. Alors vous êtes le bienvenu.
C'est de celui-là que je suis venu. Donc, mais moi je suis donc de Gès maintenant. Alors Gès c'est un petit village qui est promontoire du Lavedan, exposé plein sud. Donc c'est, on va dire, l'entrée du Val d'Azun, même si la porte du Val d'Azun serait, c'est à Arras en Lavedan. On est plutôt sur la vallée du Val du Bergons. Ce village est finalement le dernier rempart avec derrière le col de Spandel, limitrophe avec le Béarn. Donc c'est un petit village de 345 habitants. On finit le recensement, donc je saurai précisément combien on a d'habitants rapidement. Il y fait bon vivre dans notre petit village. La chance de cette géographie, c'est qu'il est proche, notamment d'Argelès, il y a une proximité avec le chef-lieu de notre territoire, de la vallée des Gaves. Et donc, on a la chance d'avoir dans ce petit village le maintien de l'école. Moi, qui suis très attaché à cette politique familiale.
Donc, en regroupement avec d'autres villages?
Alors, voilà. Moi, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup de cohésion, je vous parle d'humain. Quand on a eu la visite de Monseigneur, il nous a fait vraiment un laïus sur ce registre-là. qu'on doit, nous, la paroisse, fédérer. Et nous, notre rôle aussi de maire, c'est aussi de fédérer des gens autour d'un projet commun, de mettre l'humain. Et l'humain, ça passe aussi par la famille, je trouve. Et on est très heureux de pouvoir avoir une école avec quatre villages que sont Gès, bien entendu, Serres, Salles ou Zousse. Et nous avons un RPI qui est, où mes prédécesseurs...
Donc on, RPI, c'est un regroupement pédagogique. Voilà, voilà, regroupement pédagogique et, intercommunal.
Exactement. Et qui a permis cette mutualisation de maintenir l'école, cette proximité. Mmh. Je crois que c'est une chance fondamentale pour l'éducation, bien entendu, pour donner aussi des valeurs. Je trouve que c'est... on a des écoles à petite échelle. Donc c'est à peu près 25 écoliers par classe, sur trois classes, GES, Salles et Ouzous. Et ça permet effectivement d'avoir une éducation, je dirais, d'intégration de valeurs, identitaire. Je ne suis pas sectaire dans ce que je veux dire, mais l'identité pour moi est très importante. Et donc, on a la chance d'avoir un village de GES qui est très, qui porte ces valeurs-là. En
fait. Alors, pour que ça marche et pour que vous ayez une vision à long terme, notamment avec l'école, ça veut dire que il faut que vous puissiez dans votre village accueillir des familles, que les familles puissent rester, s'installer, pour que vous puissiez être sûr que bien l'école, elle a de l'avenir puisque les familles sont là.
Je crois que c'est le sujet de fond un peu de nos territoires qui sont lié au tourisme, donc le tourisme amène l'attractivité. Et c'est vrai que quand on a des terrains ou des maisons qui sont rachetés par des familles, c'est une richesse humaine à long terme. Donc je crois qu'aussi notre sens d'élu, c'est donner cette possibilité à des primo-accédants de pouvoir acheter. C'est aussi d'amener des services dans nos villages. Donc moi, je suis très content avec mon équipe municipale. Je vais raisonner qu'en équipe. C'est pour moi fondamental. On avait trois objectifs majeurs quand on a pris cette mission-là. C'était déjà de respecter l'héritage que nous avons. Donc nos prédécesseurs ont fait beaucoup de bonnes choses. Et donc, on a mis trois objectifs majeurs. C'était recréer du lien, qui est fondamental. Maintenir l'embellissement du village. Et le troisième objectif qui était pour moi aussi, qui ne peut se dissocier, c'est de repositionner notre village auprès du territoire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire
au sein d'une communauté de communes, au sein de la vallée des Gaves.
Voilà, et d'un intérêt général, quoi. Et donc, on a créé quelques petits espaces ludiques, un espace multigénérationnel. Il fonctionne très bien, on a de la vie entre les pétanqueurs, entre les jeunes qui viennent faire du foot.
Donc là, c'est aussi pour les personnes qui sont de passage, pas seulement pour les gens qui résident.
Exactement, puisque l'attractivité passe aussi par ce développement économique qui est lié au tourisme. Quand je pense repositionner notre village auprès du territoire, il faut que chaque petit village puisse amener sa pierre à l'édifice par rapport à ses valeurs, par rapport à ses ambitions, mais qui comporte l'intérêt général, quoi. Et donc, ce sont des outils qui permettent de fonctionner. On a aussi entamé une démarche. Moi, je parle de revenir à l'aspect le plus authentique, c'est-à-dire, mais ce n'est pas péjoratif ce registre-là, c'est même valorisant, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir une architecture. On a des doctrines architecturales qui sont des maisons en pierre à deux pentes, etc. Donc nous, on est vigilants quand on a des constructions, on essaie d'essayer de maintenir ce cadre-là.
Est-ce que sur votre territoire, il y a déjà la loi montagne qui dicte...
Alors, elle en fait partie, la loi montagne, mais on est plutôt sujet à des doctrines. C'est-à-dire que la loi montagne n'a pas un gros impact sur l'urbanisme, notamment. Nous, on est plutôt sur ce maintien. Donc il y aura, je dirais, dans les années à venir... une transformation de notre schéma directeur carto-communal, un PLUI intercommunal, c'est ce que la loi NOTRe nous impose de faire dans les années futures. Et donc on pourra maintenir plus de maintien d'identité, c'est-à-dire ou plutôt d'architecture, on pourra imposer des choses, ce qui va alléger aussi le fonctionnement aussi des maires dans ce registre-là. Et ce que je voulais dire dans toute cette démarche-là, c'est que dans le fait que nous voulons maintenir cette authenticité, c'est-à-dire que on a, par exemple, l'enfouissement des réseaux qui fait que on peut maintenant, on n'a plus un câble dans nos villages, dans le village de Gès notamment, ce qui permet finalement d'avoir une architecture magnifique. On a des cartes postales.
Et de profiter pleinement du Bergonce que vous, dont vous parliez tout à l'heure.
Et puis finalement, derrière, ça amène sur aussi la technologie, puisque l'enfouissement nous a permis aussi d'intégrer la fibre. Donc finalement, on est un village qui est authentique et aussi qui est toutes les moyens techniques de maintenant qui permet de communiquer et de fonctionner.
Alors pour que ce soit harmonieux, il faut que ce genre de défi soit relevé non pas seulement à l'échelle du village, mais à l'échelle de l'intercommunalité. Alors, vous parlez tout à l'heure du schéma directeur. Ça en fait partie, ce genre de choses? Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'un schéma directeur?
Il y a plusieurs sujets dans la gestion d'une mairie. Donc là, sur l'urbanisme, par exemple, à l'intercommunalité, on a un service instructeur qui nous accompagne, nous, à gérer. C'est-à-dire que là, le transfert de compétences n'est pas encore à l'interco. Elle est encore gérée par nos communes, soit du RNU, donc il n'y a pas de schéma directeur d'urbanisme, soit par une carte communale, donc on a un zonage, soit par un plan d'urbanisme, plan PLU. Moi j'ai une carte communale, quand j'ai un urbanisme qui arrive, quand j'ai une personne qui veut construire, déjà je lui dis, est-ce que vous savez où c'est que vous posez les pieds? C'est la première question. Mmh. Et pourquoi vous venez ici? C'est la première question que je pose à ces personnes-là. Derrière, quand ils me proposent déjà un premier projet, je souhaite qu'ils aient compris l'identité de notre village et que le projet qu'ils me proposent soit dans cette cohérence-là.
Mais vous avez, vous, en tant que maire, le pouvoir de dire écoutez, non, votre projet n'est pas possible chez nous.
Exactement, bien sûr. On essaie d'avoir ce libre... c'est l'arbitrage, c'est notre rôle d'arbitrer tout ça. Et donc pour ça, on se fait aider par l'intercommunalité, il y a un service instructeur qui analyse le dossier et qui nous met des réserves et qui nous explique comment est-ce qu'on est dans la vérité de ce qu'on peut opposer, si on doit opposer, ou plutôt ce qu'il nous propose, on peut poser des questions, est-ce que ça correspond concrètement à notre architecture et est-ce qu'on peut l'accepter? Donc si vous voulez, on est... Ça c'est pour la partie urbanisme. Quand tout à l'heure, et je crois que c'est un peu le sens de notre rencontre aujourd'hui, les chemins, le patrimoine... Il y a un super projet qui s'est lancé à l'Interco, c'est la refonte d'un schéma directeur des chemins. C'est vrai que donc c'est un travail qui va se faire sur le long terme. On a la chance dans notre vallée des Gaves, donc qui représente bien sûr la vallée d'Argelès, le Val d'Azun, Cotteret et bien sûr tout le Pays Toy avec Gavarnie et puis la vallée de Barège. On a une richesse de niveau qui fait qu'on part quasiment de 450 mètres pour arriver à 3380 mètres.
C'est extraordinaire.
Et donc, on a un potentiel chemin qui est très, très important. Je crois qu'on est plus de 1500 kilomètres. Alors, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites par des élus. Celles que je vais vous parler plus tôt après dans mon village et puis avec celles de mes collègues de Serres, Salles et Ouzous. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites par des élus, par des mairies, par des associations pour créer divers chemins. Des chemins de vélo, des chemins de randonnée.
C'est vrai qu'il y en a partout.
De courses de trail, il y a des courses de trail en permanence dans nos territoires. Il y a bien sûr la route avec tous les cols mythiques que nous pouvons avoir. Et donc en fait, toutes ces initiatives font qu'aussi il y a une harmonisation qui doit être faite sur la signalétique et sur la définition des chemins qu'on peut intégrer d'intérêt communautaire. Et des chemins aussi qu'on doit laisser à la gestion des communes ou autres bonnes personnes qui veulent.
Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Ça veut dire, c'est pas tout à l'interco ou tout
possible.
Au village.
C'est pas possible.
Il y a une répartition intelligente de la gestion des chemins.
Ouvrir un chemin, finalement, il n'y a pas de retombée directe. Très clairement. On ne fait pas payer un abonnement,
etc.
Donc, c'est des reversions indirectes, on appelle ça. C'est-à-dire que l'attractivité et tout ce qu'on peut amener amène que des personnes viennent, reviennent et promeuvent finalement ces chemins et notre vallée.
Donc, ça ne rapporte rien en termes de finances, ni à la commune, ni à l'intercommunalité.
C'est des bénéfices indirects, quoi. Chacun, ça peut être des hôtels, ça peut être des appartements, c'est des restaurateurs, en fait, c'est tout ça, c'est des reversions indirectes.
Donc, c'est pour ça que vous dites que c'est un travail ensemble.
Et donc, l'intercommunalité ne peut pas tout porter.
Bien sûr.
Et de fait, donc, il va falloir prioriser, c'est tout le sens du travail. Donc, on se fait aider par un cabinet. Je n'en dirai pas plus parce que c'est en cours et c'est un travail qui est vraiment commun lié à l'interco. Mais j'y crois beaucoup parce que ce sont des leviers qui nous fédèrent. Moi, je suis d'une éducation sportive, c'est-à-dire rugbystique notamment. Et j'avais un entraîneur qui me disait souvent 70% des résultats est lié à la cohésion. Et dans toute interaction humaine, que ce soit associative et même de village et entrepreneuriale et je dirais même de cohésion sur les comités des communes, il faut qu'on crée la cohésion. Et je crois que là, nous on y est donc par la commission de tourisme notamment et la commission aussi qui est des aménagements sportifs et des structures sportives, et on se sent vraiment motivé pour travailler dans le devenir. C'est porté par notamment le maire de Barège, Pascal Haribet, qui est le président de la commission, donc lui pour vous en dire peut-être plus sur ce schéma directeur. Et il y a aussi Charles Legrand, donc que vous avez rencontré quand on a vu la rencontre des paroisses, qui est le maire d'Arras-en-Avignon dedans, qui a des aménagements sportifs et structures sportives. Et donc voilà, je crois qu'on a un super projet de devenir, parmi tant d'autres, oui, bien entendu. Mais je sais que ces chemins, c'est maintien de nos territoires, et c'est ce que je vais peut-être vous parler un petit peu sur notre territoire.
Alors on va marquer une petite pause, Jean-Baptiste Ramon, et puis on vous retrouve juste après pour continuer cette conversation et notamment faire un focus un peu plus approfondi sur cette histoire de chemin.
Voilà, et je rappelle que nous sommes avec le maire de Gesse. Gesse est une commune qui se trouve dans les Hautes-Pyrénées, juste à quelques kilomètres à peine d'Argelès-Gazost, dans le sud du département des Hautes-Pyrénées. Effectivement, on marque une pause, Androis Jankovic, et cette pause, c'est avec l'actualité régionale. Le journal est présenté par Ilona Sant de l'École de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous et à toutes, c'est le retour du lundi de Pentecôte, un jour férié devenu une journée de solidarité depuis 2004 pour financer la branche autonomie de la Sécu pour les personnes âgées ou bien pour le handicap, une journée qui doit rapporter près de 3,5 milliards d'euros cette année. Un changement de programme pour les taxis, et oui, pas de manifestation, une interdiction de la préfecture qui craignait un risque d'affrontement avec les VTC qui eux aussi voulaient manifester. Dans le même temps, les chauffeurs de taxi partent finalement direction Paris, devant le ministère de l'économie. 3 convois partent de Toulouse. Les organisateurs espèrent entre 300 et 400 véhicules toulousains. À Lautrec, dans le Tarn, 110 écoliers ont cours aujourd'hui en dehors de l'école. Une école fortement touchée par les intempéries, de la grêle fin mai, des fortes pluies la semaine dernière. Résultat, un bâtiment inondé, un toit bâché et des cours au gymnase à partir d'aujourd'hui. Les plus petits, eux, sont à la mairie, un moment difficile à passer. L'exploit du week-end, Céline Ferrer, 33 ans et cadre de santé au centre hospitalier Purpan de Toulouse. Il a relevé un défi incroyable, faire Toulouse 7 en courant le long du canal du Midi. 48 heures de course, soit 246 km sans s'arrêter pour soutenir le don d'organes. Une cagnotte est en ligne et 60% des dons seront reversés à l'association Midi Cardio Greffe. Côté spirituel, le mythe de Toulouse accueillait ce dimanche de la Pentecôte 15 000 catholiques pour assister à une messe géante, une célébration marquée par la confirmation de plus de 1 000 chrétiens, un record pour le diocèse, tous réunis pour invoquer ensemble l'Esprit-Saint. Un beau projet scientifique à Albi, avec une quarantaine d'étudiants en BTS du lycée Louis Rascol. Ils travaillent sur une bouée océanographique baptisée Tipod, en lien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Cette bouée de 6 mètres de haut et 700 kilos est destinée à collecter des données près de l'Antarctique. Elle a déjà été testée avec succès en Méditerranée en mai. Enfin, en rugby, Montauban accède au top 14. L'USM a battu Grenoble ce week-end en finale de Pro D2, une victoire qui lance une nouvelle étape. Et du côté du Stade Toulousain, la demi-finale approche. Mais attention, la défaite à Perpignan laisse des traces. 3 joueurs blessés à quelques jours de l'échéance. Et côté tribune, on est pas mal. 2,9 millions au total de téléspectateurs pour le top 14, un nouveau record. Et plus de 22 000 spectateurs en moyenne pour Toulouse.
Eh bien voilà, merci Elona Sand de l'école de journalisme de Toulouse à 13h. C'est le retour de l'actualité sur notre antenne. Ça sera avec la rédaction française de Radio Vatican. Allez, à suivre dans les prochaines minutes sur Radio Présence. Eh bien, on parlera du port noir de Bigorre avec Julie. Ça sera avec l'office de tourisme de Toulouse. Et puis dans un instant, on retourne à côté d'Argelès-Gazost, dans cette petite commune qui s'appelle Gès, avec le maire au micro d'Androse Jankovic.
Des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvé des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage.
La symphonie des éclairs, c'était Zao de Zagazan dans Présence Midi. Direction donc à Gès, à côté d'Argelès, avec l'invité d'Androse Jankovic.
Présence.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Ramon, maire du petit village de Gès, au-dessus d'Argelès-Gazost. Alors, monsieur le maire, quand je dis petit village, ce n'est pas du tout péjoratif, vous avez bien compris.
Je ne l'ai pas pris comme ça.
Voilà. Alors, nous parlons des chemins avec vous. On entend bien, on a bien compris en première partie l'enjeu des chemins. Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous m'avez dit avant qu'on démarre l'enregistrement. En aparté, vous me disiez que les chemins ont aussi un rôle important dans l'harmonisation des paysages. Et vous me disiez, mais les paysages, nos paysages ont vraiment changé. Il y a même un enjeu de sécurité. Avant qu'on reparle de ce que sont les chemins et de ce que vous proposez sur votre village, je voudrais qu'on aborde ce point-là.
Le constat, il est pour moi clair. Enfin, c'est ma vision. Si je vous montre une photo il y a 50 ans de notre vallée, et si je vous la montre maintenant, on a une partie notamment des villages, la partie communale, on va dire, les communaux.
Oui.
En fait, si vous voulez, dans la répartition, il y a les champs de plaine ou l'agriculture de plaine. Il y a ensuite les communaux, ce sont derrière nos villages. Et après, il y a les espaces pastoraux. Et si vous voulez, il y a une tranche qui, je dirais, en termes d'altitude, de 550 mètres ou de 600 mètres d'altitude jusqu'à à peu près 1500 mètres, un peu moins de 1500 mètres. Mmh. Où on a vraiment une transformation de nos paysages.
C'est-à-dire que la forêt prend la...
Exactement, c'est exactement ça. Donc je crois que c'est lié à plusieurs phénomènes. Hein.
Peut-être d'abord parce qu'il y a moins d'élevage.
Alors certainement. Donc c'est là, je vais être prudent dans ce que je dis parce que je suis fils de paysan. Mais c'est vrai qu'on a eu une transformation de l'agriculture dans le fonctionnement de l'agriculture. On est parti plutôt sur l'intensification, et je crois que c'est normal, hein, on doit vivre de nos métiers. L'intensification, c'est quoi? C'est augmenter nos productions dans nos élevages, et donc il faut de la ressource en fourrage, et je crois que nos agriculteurs, je vois aussi la pratique dans l'exploitation que mon frère a repris, on a peut-être une moins forte entretien de ces endroits-là. C'est-à-dire que avant on prenait le temps de le faucher avec des motos faucheuses à la faux ou autre. Maintenant, on fait du package et on va faire plutôt le foin dans des endroits qui sont beaucoup plus accessibles. C'est tout le sujet.
Donc la nature reprend ses droits dans les endroits qui ne sont pas...
Vous savez, il y avait une méthode qui était très simple. On faisait pâturer au printemps, on fauchait l'été, Et ceux qui n'avaient pas été fauchés et qui n'avaient pas été pâturés ont pratiqué l'écobuage. L'écobuage, j'en parle assez librement, c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup de personnes qui sont contre, etc. Mais il faut comprendre que l'écobuage, c'est une pratique ancestrale qui permettait d'entretenir ces territoires-là et qui était vraiment le compromis entre la pâture des élevages, ensuite l'aspect, on va dire, fauche, et ces résidus, c'est-à-dire des petits noisetiers qui peuvent pousser. Des petites ronces qui peuvent pousser, eh bien, elles étaient fauchées, et la fougère. Donc c'est vrai que là, on a eu, depuis une trentaine, quarantaine d'années, une déperdition de ces entretiens, et effectivement, ça se bouche, parce qu'il se met la fougère, après la fougère, il se met noisetier, c'est les ronces, et on perd ce foncier-là. Donc, moi l'idée que j'en ai, que j'ai proposé aussi un peu à mes collègues, c'était que il faut trouver des solutions pour essayer de vouloir le regagner.
Oui, mais pardon, mais je vous coupe, mais ces propriétés, elles sont privées.
Alors, il y a des propriétés privées, tout à fait, mais il faut donner du sens de vouloir y aller. C'est-à-dire que dans le temps, les anciens avaient fait des chemins pour. Je vais vous donner un exemple concret. On est en train de réouvrir le vieux chemin de la montagne qui part de Serres et qui arrive jusqu'aux Trois Sapins. C'est le Val du Bergons. Et on redécouvre un chemin qui est magnifique. Il a quasiment 2 mètres de largeur. Il a été fermé. Je suis convaincu que. En fait, c'est pas une utopie pour moi. Je suis convaincu que si des personnes qui y passent et qui voient que dans le cadre, s'ils sont propriétaires, parce que c'est comme ça que ça peut se passer, eh bien, ça pourra peut-être donner l'envie de le renettoyer. Et donc, je crois que l'un ne va pas sans l'autre.
Donc, vous avez aussi besoin des propriétaires et des agriculteurs sûr, pour que ces chemins puissent revivre.
C'est toute une harmonisation. Vous savez, on parle de maillage du territoire.
Oui.
Le maillage, c'est toute une somme de personnes.
Ouais, ouais, bien
c'est
sûr.
Les pros, dont les agriculteurs ou autres, c'est aussi les privés. Et c'est, il faut, notre rôle, c'est donner du sens.
Mais alors,
donner
Charles...
du sens, c'est peut-être donner ses initiatives. Et j'espère qu'on pourra avoir... et je trouve que là, on a une dynamique qui est assez intéressante dans nos villages. Quand on fait des journées solidaires, on peut avoir jusqu'à 30 personnes pour nettoyer. Ça peut s'essouffler. Mais pour ne pas s'essouffler, il faut donner du sens, il faut comprendre. Et je pense que là, on a des leviers pour essayer de redonner une dynamique d'entretien de ces territoires-là.
Alors, au-delà de l'entretien des paysages, quel est le sens de rouvrir un chemin ? Vous, alors, j'imagine que vous allez me parler de la rencontre et de, voilà, du lien que ça peut créer entre peut-être un village à un autre et puis entre des personnes qui peuvent se rencontrer, se croiser. On parle souvent de la croisée des chemins.
C'est exactement ça. Vous savez, l'initiative répond à plusieurs enjeux. Je finis un petit laïus sur la partie entretien. Et c'est vrai que on a vu en Californie, je crois que c'était en Californie, le gros incendie qui a attaqué toute une ville, avec plus de 10 000 maisons qui ont été brûlées.
Incendié,
oui. On a vu, c'était il y a quelques années, en Gironde aussi, où il y a eu un feu. On voit une évolution climatique qui est de fait, avec de l'excès d'eau ou à l'inverse, moins d'eau. C'est un sujet de fond et un sujet que nous, élus, on essaye de prendre à bras le corps, avec nos moyens, nos petits moyens souvent, mais c'est vrai que c'est un sujet de devenir. Et je crois que, je pense que l'incendie peut être un des enjeux majeurs de demain, un des risques majeurs de demain.
Donc l'entretien de ces paysages.
Ça va être fondamental. Fondamental.
Et donc, un enjeu sécuritaire. Là,
un enjeu sécuritaire. Et donc, moi l'idée que j'essaye d'impulser, c'est qu'on essaie de le regagner, donc redonner envie d'y aller, donc la réouverture des chemins, et au-delà de l'aspect sécuritaire, en vouloir envie d'y aller, de rentretenir, c'est un enjeu de rencontre aussi. Voilà, et donc, je reviens un peu sur la thématique du sens aussi de la réouverture. On a passé des journées solidaires où on a passé du bon vivre, on a donné du sens à des personnes de venir donner un coup de main.
Oui.
Et quand ils revoient que les chemins se réouvrent, eh bien, ils sont fiers, ils y vont, ils le refréquentent,
et c'est une démarche.
Et ils en parlent. Et c'est la dynamique se crée comme ça. Et je trouve que là, on a un lien qui est en train de se créer entre nos villages. Elle y était, bien sûr, mais ça permet de la maintenir, de la développer. Et puis après, de regagner des chemins qu'on ne pensait pas avoir je dirais, de aussi jolie et si proche de chez nous. C'est ça qui est important. Et quand on parle de développement économique de nos territoires, c'est aussi le sport, c'est aussi la santé, c'est aussi le bien-être.
Bien sûr.
Et je crois que donner du sens de vouloir y aller, je pense qu'on a un enjeu sociétal aussi par rapport à ces choses-là.
Alors j'ai encore deux questions sur les chemins, même trois questions. D'abord la question du financement. Quand il faut redécouvrir un chemin qui est envahi de ronces, etc., qu'il faut nettoyer, qu'il faut baliser, même s'il traverse des propriétés privées, c'est à la charge de la commune. Tout ça, ce travail de nettoyage, il faut du matériel pour faire tout ça.
C'est tout le sujet du schéma directeur. Schéma directeur, c'est qui paye.
Oui.
C'est ça, très clairement. Hein. L'Interco ne pourra pas tout payer. Dont les communes, on va devoir financer. Moi, je crois que sur des sujets comme ça, donc à l'heure actuelle, c'est le bon vouloir de chacun. Hein, quand je fais des sondages sur... on a des groupes WhatsApp. C'est vrai qu'on a la communication qui est facile maintenant. Donc, on a aussi des personnes qui sont développeurs. Ça peut pas être porté que par les maires. Et donc, on fait un sondage. Qu'est-ce que vous avez ? Rotofil, tronçonneuse. Donc là, on est sur du bénévolat.
Donc, vous partagez aussi les moyens les techniques. Moyens. Quoi.
Voilà. Mais ça ne pourra pas durer. Donc, il va se poser une réflexion du devenir. C'est-à-dire, on ouvre et comment on maintient cet entretien-là.
Et oui, parce qu'après, tous les ans, il faut, ou même deux fois par an, peut-être, il faut repasser pour,
exactement.
Pour entretenir.
Donc, moi, je crois une chose, c'est que avant, le nettoyage des chemins se faisait par le package des vaches.
Oui.
Donc pourquoi pas ? Eh bien, deux ou trois fois. Donc, si vous voulez, la transhumance, ça fait partie aussi de notre identité, de notre patrimoine. Et je crois que c'est tout ce compromis qu'on peut retrouver. Dire aux agriculteurs, eh bien, écoutez, quand vous montez, eh bien, vous faites passer vos brebis. Donc ça peut être déjà une première fauche.
Alors, est-ce que les agriculteurs et ou les propriétaires peuvent s'opposer à ça ? Si ça passe chez eux ou si ça...
Alors, voilà. Est-ce qu'ils peuvent dire, bah non, moi je ne sais pas. On signe des conventions, bien entendu. Bien entendu, on signe des conventions avec les propriétaires, donc c'est de l'explication, de la démarche.
Et mais vous rencontrez des difficultés
Non, c'est très très bien perçu, parce que quand ils revoient que ça s'ouvre, qu'il y a une démarche, on rencontre très peu d'aspects négatifs, bien au contraire, ils viennent. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, l'entretien, c'est des choses qu'on doit réfléchir. Alors, c'est aller chercher toujours des financements. Un maire est un chasseur de primes. Je ne sais pas si c'est le bon terme employé, mais on essaye d'avoir le maximum de financement et que ça soit moins supporté par la commune.
Oui, sinon, vous êtes obligé d'augmenter vos impôts locaux.
Exactement.
Etc.
Et bien, vous avez fait la genèse de notre travail. Et c'est ça où il faut être vigilant. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment un gros travail à finaliser sur ce projet-là. Moi, j'y crois beaucoup, pour les raisons que je viens de vous dire, de sécurité, de lien social,
de mise en valeur
et de mise en valeur, bien sûr, de ce patrimoine architectural qu'étaient ces chemins avec des bordures en pierre. Et puis, ils sont vraiment magnifiques. On se ressource.
On va arriver au terme de cette émission. On va passer à la dernière partie. Une toute dernière question quand même sur les chemins. Quand vous avez eu la visite pastorale de Monseigneur Mika sur votre territoire, vous avez évoqué ce sujet des chemins et vous avez notamment, ça m'a marqué, évoqué un chemin en particulier, ou peut-être un projet de chemin qui irait d'église en église. Est-ce que vous pourriez terminer sur ce chapitre chemin avec
tout à fait. Alors, chapitre chemin, je vais déjà parler du chemin de Saint-Jacques-Compostelle. Nous avons la chance du chemin de Saint-Jacques-Compostelle qui passe par nos villages. Alors, nous, on a des églises romanes, d'accord. C'est à peu près du XIIe siècle. Elles ont été rénovées ensuite par les différents gestionnaires et maires des communes. Et c'est vrai que le Saint-Jacques-Compostelle, il passait par nos villages. Et c'était ces églises
de
refuge.
C'est la voie d'Arles.
Alors, il y a deux variantes. Il y a la variante qui passe par le Val d'Azun, le col à Père Saint-Martin et qui va, bien sûr, après Saint-Jacques-Compostelle, et l'autre qui passe par Gavarnie, le col de Boucharot. Donc on a le chemin, je ne vais pas être précis parce que je ne connais pas exactement où il passe, mais on a ces deux trajectoires-là. On peut aller par le Val d'Azun et après par le Gavarnie et il passait par nos églises. Et c'était un lieu de refuge des pèlerins qui venaient s'abriter, qui venaient demander aussi logis ou plutôt repas aux administrés et qui qui accompagnaient et aussi qui se protégeaient aussi des bêtes. J'ai lu quelques sujets de ce côté-là.
Alors là, voilà. Les loups, des ours, par exemple.
C'était possible, ouais. Voilà.
Ce sera peut-être possible encore dans l'avenir.
Et donc voilà, donc dans le parcours des chemins, on gère un carrefour, c'est-à-dire comme direction, soit on peut gérer un itinéraire. Et donc, la référence que nous réfléchissons un peu avec mes collègues maires des villages et des quatre villages, c'est pourquoi pas créer aussi un parcours des quatre églises pour pouvoir aller les visiter, se recueillir, bien entendu.
Donc ça, c'est un projet, vous vous donnez un délai? C'est long, ce genre de projet?
C'est long, c'est juste des volontés. Donc je pense que ça se fera dans les... ils y sont déjà, les chemins. Mais c'est plus les indiqués.
Ah oui.
C'est toute une histoire
d'indications.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place. Oh, je pense que l'horizon d'un an, ça sera fait.
Voilà.
Voilà.
Jean-Baptiste Ramon, nous passons à la dernière partie de cet entretien. On va parler de l'engagement d'un élu. Vous êtes maire de Gèze depuis les dernières élections. C'est votre premier mandat de maire. Racontez-nous un peu comment... Alors, on a souvent des élus locaux au micro de Radio Présence. On entend souvent des témoignages très, très forts, très beaux. On pourrait presque même parler d'une vocation d'élu dans certains cas. On entend aussi parfois la difficulté. Vous, comment vous vivez cette mission?
J'oserais vous dire que il faudrait peut-être demander à mon épouse. Non, elle me voit souvent soucieux.
Qu'est-ce qui vous soucie?
Alors, elle me voit souvent un peu en colère, etc. La mission de maire, c'est de petits villages, comme vous le dites. Nous, déjà, j'aimerais dire qu'on a déjà une chance, c'est d'avoir une super secrétaire qui nous accompagne. Parce que si on avait l'aspect administratif à gérer, ça serait impossible. Donc déjà, c'est un travail en commun avec Sandrine, elle s'appelle, et heureusement qu'on l'a. Il faut être vraiment attaché à son territoire. Il faut y aller sans ambition, je dirais, individuelle. C'est tout le sens d'être maire, c'est-à-dire qu'on y va pour l'intérêt général.
C'est pour ça que vous y êtes allé, vous?
Bien sûr, parce que en fait, je veux pas que mes filles un jour me disent, et mes enfants, papa, tu aurais pu, t'as pas essayé. Au moins, ils m'ont dit, mais t'y as été, t'as essayé, et puis est arrivé ce qui est arrivé. C'est déjà aussi un peu cette définition, je le fais parce que j'ai envie. Je le fais parce que mon père, qui était un élu aussi, m'a donné cette envie de vouloir faire. Et je crois que être maire, c'est être un médiateur, je crois. Déjà, s'il arrive à faire de la médiation dans son village pour apaiser, pour créer du lien, pour créer de la cohésion et aussi pour développer, parce que on n'est que de passage. Moi, je le dis systématiquement, même mes collègues, je rends hommage à mes prédécesseurs qui ont fait des choses de structurelles pour mon village. On est tous de passage.
Donc, il y a quand même une histoire de transmission et d'héritage à chaque fois.
Exactement. Et si on n'a pas compris ça, si on veut de suite tout réformer, il faut on s'adapte de ce qu'on reçoit. Et on essaye d'amener cette pierre édifice avec aussi l'objectif de toujours améliorer. On est là pour améliorer la vie de nos villages. C'est ça. Déjà, si on arrive à améliorer la vie sur nos services, sur la voirie, sur du lien, sur des outils, je crois que déjà on fait un bon pas. Mais c'est vrai qu'être maire, c'est aussi des petits problèmes. C'est le chien qui aboie. Et c'est vrai que c'est 7 jours sur 7.
Oui, c'est-à-dire que les administrés comptent sur vous pour tout.
Oui, c'est ça, mais c'est normal. Il faut l'accepter, ça. Si on n'accepte pas ça, on peut vite se mettre en colère et non. Et donc, on doit plutôt prendre sur soi. C'est aussi une équipe, hein, donc...
Alors ça, vous y tenez beaucoup. Vous ne vous voyez pas maire tout seul.
C'est pas possible.
Vous voyez, en fait, maire en équipe, quoi.
Maire, on est décisionnaire. C'est-à-dire qu'on a un conseil qui nous accompagne à prendre des bonnes décisions. Et aussi, on est un développeur, c'est-à-dire un dynamiseur, excusez-moi. Mais si on ne dynamise pas et que vous n'avez pas du soutien de votre équipe, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc, c'est une répartition des tâches. Hein. C'est aussi une répartition, comme je vous dis, de conseils, parce que, on parlait d'urbanisme tout à l'heure, on a des sujets d'urbanisme qui sont complexes. C'est pas tous les jours tout beau avec des projets de sites multigénérationnels ou de transformation de la salle polyvalente. On est aussi sur des gestions, même des conflits, on peut gérer, on peut amener aussi de l'apaisement. On doit prendre des décisions dans l'intérêt général. Et cet arbitrage derrière, on ne peut pas l'avoir tout seul. Parce que tout seul, on peut être pris par l'émotion. on peut être pris par beaucoup de facteurs qui nous permettent pas une bonne réflexion. Et je crois que l'identité équipe, elle est fondamentale. Mmh. Et si je me représente, ce sera toujours mon leitmotiv.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Ramon. Je rappelle donc que vous êtes le maire du village de Gèze, au-dessus d'Argelès-Gazos, c'est dans la vallée des Gaves. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre, ici dans les locaux de Radio Présence, et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir fait rêver avec ces histoires de chemin. Voilà, et j'espère que les auditeurs de Radio Présence, qui sont un peu partout en Occitanie, viendront en profiter. Grand merci.
Et on vous attend avec impatience.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Dans cette balade en pays de Lourdes avec Julie de l'Office de tourisme, bonjour Julie.
Bonjour.
On va parler du port noir de Bigorre et c'est pour nous l'occasion de saluer tous les charcutiers qui écoutent Radio Présence. Les charcutiers avec le premier statut de charcutier qui date d'il y a quelques siècles.
Exactement. Alors la charcuterie, il faut savoir que c'est un moyen de conservation qui est très très ancien. Voilà, les moyens qu'on connaît aujourd'hui de réfrigération ne sont pas, enfin, sont très récents. Et autrefois, pour conserver la viande, il fallait bien trouver des solutions. Et donc le séchage et le salage en étaient une. Au même titre, par exemple, que le confit que l'on connaît avec la graisse ou le fumage. Donc le sel, c'est vraiment un agent de conservation. Et les premiers statuts, effectivement, de métier de charcutier datent du 17 janvier 1475. Donc c'est très très ancien. Et les charcuteries, notamment, ont une place importante dans les Pyrénées. Et on connaît notamment tous le jambon de Bayonne, par exemple.
Ce qui nous amène à parler donc de ce port noir de Bigorre avec un climat des Pyrénées qui est bien adapté.
Exactement. Le port noir de Bigorre, il fait partie intégrante déjà de la faune locale pyrénéenne. Au même titre, par exemple, que son cousin sauvage, le sanglier, ou le port noir ibérique de l'autre côté des Pyrénées. Il est connu dans les vallées depuis l'époque romaine déjà. C'est une race vraiment locale et très bien implantée, très ancienne. Puis toujours, il se nourrit de ses trouvailles sur son terroir d'origine, donc des herbes, des glandes, des châtaignes, des céréales. Il est très adapté à son terroir d'origine, mais malheureusement, c'est aussi ce qui en a fait sa plus grande faiblesse au moment du développement industriel de l'agroalimentaire, puisqu'il n'était pas du tout adapté aux conditions d'élevage intensives, et ça a failli le mener à son extinction, puisqu'en 1981, il ne restait plus que 2 mâles de porc noir de Bigorre dans les Pyrénées.
Alors ce porc noir qui donne un jambon parmi les meilleurs d'Europe, hein, c'est ce qu'on dit.
Exactement, c'est le grand paradoxe finalement. Ce qui a failli le tuer plus tôt est aujourd'hui reconnu pour son excellence. Ces méthodes d'élevage qui sont vraiment très douces, très longues, en font un produit d'exception, le jambon noir de Bigorre. Il est soigneusement préparé, salé et affiné. Ça peut durer jusqu'à entre 20 et 24 mois d'affinage, notamment de fabrication. Donc c'est quand même, il faut quand même avoir le temps pour pouvoir le déguster. Et notamment, on peut dire qu'il y a 4 grandes étapes dans sa fabrication. Il va y avoir dans un premier temps le salage au sel du bassin de l'Adour. Donc c'est le même sel finalement que celui du jambon de Bayonne. Il va y avoir ensuite une étape de repos à froid, pendant lequel le jambon est placé dans un séchoir. Et là aussi, c'est une spécificité pyrénéenne, c'est l'effet de fun qu'on connaît bien sur les Pyrénées, qui est un vent du sud assez chaud qui va venir sécher le jambon petit à petit. On a ensuite une étape de panage, donc ça va être comme un enduit, un mélange de graisse et de farine que l'on va mettre sur la partie entamée du jambon, finalement, pour que le séchage soit homogène, vraiment. Et ensuite, c'est l'étape la plus longue, c'est l'affinage. Comme les fromages, finalement, on va le laisser se reposer 16 mois minimum pour qu'il développe vraiment toutes ses saveurs. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces étapes qui vont durer entre 20 et 24 mois minimum et qui sont nécessaires à l'obtention du label AOP.
On l'a compris, donc, hein, pour faire un bon jambon, il faut du temps, ce qui nous amène à parler de cette association Slow Food.
Exactement, le porc noir de Bigorre fait partie des produits phares qui sont mis en avant par cette association Slow Food. C'est une association qui est née dans les années 1980 en Italie pour contrebalancer tout simplement le développement de la fast food Alors après, on a parlé du jambon, mais il y a aussi de nombreuses autres recettes faites à partir de porc noir de Bigorre. Donc tout ce qui est jambon entier à l'os, bien sûr, mais aussi en tranches, les conserveries. On le retrouve aussi, le jambon, dans la garbure, la traditionnelle garbure des Pyrénées. On peut le cuisiner en boudin, en pâté, en jarret. Voilà, il y a vraiment énormément de façons de travailler ce produit d'exception.
Et ces produits, on peut les retrouver à travers des producteurs locaux qui commercialisent donc ce porc noir de Bigorre dans la région.
Exactement, on peut le retrouver sous les Halles, bien sûr, au marché local. Mais aussi, depuis peu, il a vraiment une maison qui lui est complètement dédiée, la maison du porc noir de Bigorre, du jambon de Bigorre, la maison Sajousse, qui se trouve maintenant à Lourdes, où on peut justement voir les jambons séchés, le déguster et en acheter.
Voilà pour le porc noir de Bigorre. Un grand merci, Julie, de l'Office de tourisme de Lourdes. Voilà cette balade en pays de Lourdes, balade gastronomique aujourd'hui. Et la prochaine fois, on fera un atelier dégustation. Voilà. Un grand merci et à la prochaine fois donc sur Radio Présence.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes. Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Entrevue ce matin du pape Léon XIV avec les nonces apostoliques, l'occasion pour le Saint-Père de les remercier pour leur travail, mais aussi de tracer les grandes